va continuer. Donc, je suis très contente qu'on a maintenant Perry Matelot de l'Université Paris 1, qui est une jeune doctorante qui fait sa thèse sur Buller. Et donc, je donne la parole à Perrine qui va nous parler de la crise de la psychologie à la théorie du langage.
Alors d'abord, je voudrais remercier profondément les organisateurs de ces colloques, qui est pour moi exceptionnel. Jamais j'ai vu autant de gens parler de Buller le même jour et ensemble. Je voudrais les remercier de m'y avoir invité. Merci beaucoup.
Oui. Oui.
C'est moi qui parle pas comme il faut. Donc, en fait, mon papier s'appelle « De la crise de la psychologie à la théorie du langage, le langage aux prises avec le monde ». Il ne sera pas tant question de la crise de la psychologie que du problème du rapport au monde dans le langage. Buller écrit dans la préface à la théorie du langage, page 63 de la nouvelle traduction française, « La théorie qui affirme l'existence non pas d'un, mais de deux champs dans le langage est nouvelle. » Elle me semble toutefois en parfaite consonance avec une vieille idée des philosophes. Elle vérifie dans le domaine du langage la thèse de Kant que les concepts sans intuition sont vides et que les intuitions dépourvues de concepts sont aveugles. Les deux facteurs en question sont constitutifs d'une connaissance accomplie et cette thèse montre comment la pensée verbale les met simultanément en œuvre de sorte qu'ils sont étonnamment intriqués sans cesser d'être identifiables. La théorie des deux champs postule que les différents modes de monstration et de présentation sensible sont une composante essentielle du langage naturel et ne lui sont pas plus étrangers que l'abstraction et l'appréhension conceptuelle du monde. Ceci constitue la quintessence de la théorie du langage qui est ici développée. Si l'on suit ce fil conducteur de l'opposition et de l'interdépendance de l'intuition et du concept, dans l'œuvre de Buller, depuis les premières recherches sur le langage et l'élaboration du modèle des fonctions jusqu'au modèle structural des deux champs, il semble qu'un problème de fond s'en dégage. Comment parvenir à penser l'unité de signification du phénomène concret langagier et de la pensée verbale, alors qu'il est nécessaire de tenir ensemble les deux dimensions de la dépendance à la perception dans l'usage du langage intuitif, d'une part, et de la prédominance apparente du conceptuel dans l'usage même du langage. Comment parvenir à concilier dans une même théorie du langage les deux rapports au monde que suppose d'une part la compréhension des énoncés depuis les circonstances de l'énonciation qui seule garantit leur signification, et d'autre part l'indépendance fondamentale de l'appréhension conceptuelle du monde par rapport à toute inscription sensible. Entre le langage de l'intuition sensible dont le remplissement de signification suppose un rapport direct à la perception environnante, une inscription immédiate dans les circonstances de l'énonciation, et l'usage, l'usage conceptuel du langage, c'est-à-dire la représentation indirecte qui établit en vertu de conventions ou de médiateurs une relation entre des objets ou états de choses du monde et des noms ou des propositions, dans le lexique et la syntaxe, et dont le remplissement de signification est indépendant de tout ancrage perceptif, la distance semble au premier abord incommensurable. Et pourtant, s'il se joue bien dans le modèle des trois fonctions du langage, une première ébauche de l'introduction des domaines de l'intuition et du concept dans la constitution même de la signification, il faut alors parvenir à comprendre en quoi ceux-ci ne s'opposent pas, mais se complètent de manière nécessaire. En quoi ils sont étonnamment intriqués. Et tirer les conséquences de cette intrication pour la constitution de la signification en général. Interroger l'évolution dans l'œuvre de Buller du rapport de ce couple de notions, intuition et concept suppose d'analyser quel rapport le langage entretient au monde et en quoi un certain mode du rapport au monde se fait de plus en plus fondamental pour la détermination de toute signification. Il faut montrer en quoi et à quelles conditions les concepts ne sont pas vides et comment l'intuition concourt à les soutenir. Le rapport au monde peut être direct, immédiat. Il est alors compris comme une immersion des énoncés dans la situation perceptive et dans ce cas, l'accès à la signification dépend de la prise en compte des circonstances de l'énonciation. Il faut, pour comprendre la signification de ces énoncés, étudier les réactions comportementales des interlocuteurs engagés dans le processus de communication. Il est alors nécessaire d'interroger en quoi la perception peut être l'objet d'une compréhension et en quoi un sens peut émerger dans l'interaction communicationnelle. Tantôt, au contraire, le rapport au monde est indirect, médié, et il faut alors comprendre quels sont les médiateurs et quelles places le monde en tant qu'objet ou état de choses représenté doit-elle détenir dans la constitution de la signification. Enfin, la thèse vers laquelle je voudrais m'avancer est celle selon laquelle, même dans le second cas, la constitution de la signification suppose toujours un ancrage dans l'environnement perceptif et la prise en compte de la place du monde dans tout énoncé. La question est donc, si l'on suit le double rapport du langage au monde, de savoir si l'on peut considérer que Buller renforce progressivement l'importance de l'ancrage de tout énoncé, même conceptuel, dans le monde, et quelles conséquences cela peut avoir pour la signification d'une part et pour la représentation d'autre part. Afin d'interroger cette évolution et de montrer la progression d'une telle thèse dans l'œuvre de Buller, il faut en revenir à ses premiers textes consacrés au langage, dans lesquels apparaissent progressivement les trois fonctions du modèle instrumental du langage tel qu'il sera développé dans le premier axiome de la Sprachtheorie. En effet, Buller, considérant le phénomène concret du langage, ou le langage tel qu'on en use, dans une dimension d'interaction et de communication, introduit d'emblée la double dimension de l'intuition et du concept comme complémentaire dans l'élaboration de la signification. Il faut prendre en compte dans le langage son inscription dans la situation d'énonciation, laquelle garantit la compréhension des fonctions d'expression et d'appel, mais tout à la fois reconnaître la spécificité de ce qui fait le langage humain, à savoir la fonction de représentation, qui suppose un déliement de toute attache directe au sensible et la constitution d'une signification indépendante des circonstances de l'énonciation. Les trois fonctions sont à la fois inéliminables, indépendantes et complémentaires. Comment parvenir à penser un modèle de la signification qui soit capable de comprendre, sans les réduire, la multiplicité des fonctions du langage et les relations complémentaires, donc de ce que j'appelle l'intuition et le concept? C'est un tel problème qu'affronte Buller lorsqu'il développe dans la crise de la psychologie l'hypothèse d'un concept de sens très large, scindé en trois fonctions, capable d'opérer à un niveau comportemental infralinguistique, comme d'inclure en lui la dimension symbolique de la représentation. Le passage par la psychologie est crucial à plus d'un titre, car il permet à Buller de développer conjointement les notions de signal, d'indice et de symbole au niveau de l'usage du langage, d'opérer une distinction entre deux formes de placement, l'indice et l'ordre de place, au sein d'environnements distincts, mais également d'introduire dans sa réflexion sur l'inscription du sens dans l'environnement perceptif certains concepts qui seront ensuite réintégrés à sa réflexion sur la structure de la langue dans le modèle du champ. Cependant, ce concept de sens très large ne permet pas de résoudre vraiment le problème des relations de l'intuition et du concept, du symbole et du signal. Elle ne permet pas d'établir une concordance des niveaux de sens. Si donc le passage est fructueux par la psychologie est fructueux à plus d'un titre, s'il permet l'ébauche de la réflexion sur les signes déictiques, par exemple, il ne permet pas de résoudre le problème. Donc Buller abandonne le concept de sens ensuite. C'est par un décentrement de l'analyse et le passage à la considération du modèle des deux champs que Buller retravaille profondément les relations du langage et du monde. En effet, l'analyse du champ déictique met à jour la nécessité d'un ancrage dans une situation de perception, dans un environnement centré, afin de rendre possible le remplissement de certains termes, qui sont les déictiques. Or, le modèle de cet ancrage semble pouvoir s'étendre à celui du champ symbolique, à travers la réflexion sur les notions de champ environnant sympratique et sympphysique. Il y a bien quelque chose de la signification même du nom qui requiert une orientation dans l'environnement perceptif, et dès lors, c'est tout le champ symbolique qui semble ouvert à une dimension minimum d'ancrage dans la réalité sur le modèle du déictique. Dès lors, l'intuition complète bien le concept, qui sans ce recours nécessaire à l'inscription sensible, y compris dans le champ symbolique, courrait le risque de rester vide. Donc j'analyse d'abord l'introduction du modèle des trois fonctions du langage. Si je dis « il pleut », je peux émettre par là un constat, j'ai regardé par la fenêtre, exprimer mon agacement, je ne pourrais pas faire cette promenade prévue, prévenir l'étourdi qui s'apprête à sortir sans son parapluie pour qu'il le prenne. Une seule et même phrase contient donc les trois fonctions, ce que Buller va appeler les trois fonctions, et l'accès à chacune d'elles dépend du ton de la voix, des circonstances de l'énonciation, de la compréhension des signes employés. Cette compréhension suppose donc bien qu'il s'agisse de signification dans chaque cas, et pourtant, le statut de cette signification n'est pas homogène. En quoi l'introduction des trois fonctions inéliminables et complémentaires conduit-elle à penser un double rapport du langage au monde? Le langage, en tant que l'on en use, et Buller s'attache d'emblée à considérer le phénomène concret du langage, principalement dans la relation de communication, doit être compris simultanément selon plusieurs points de vue. Le problème pour Buller est d'abord de montrer en quoi une approche exclusive de la signification globale par le biais d'une des fonctions seules, serait une erreur fondamentale de la compréhension de ce que peut réaliser le langage. Il faut donc d'emblée prendre en compte la dualité des fonctions du langage, à la fois dépendante de la situation d'énonciation et indépendante de toute inscription immédiate dans le sensible. Cette dualité est introduite dans une recension que Buller publie en 1909 de l'œuvre de Marty consacrée à la grammaire, lorsque Buller reproche à Marty d'en être resté à l'examen des deux fonctions qu'il nomme fonction d'expression ou de manifestation, qui est la Kungabe, et fonction d'appel ou de déclenchement, Auslösung, du langage. Marty reconnaît en fait deux fonctions du langage qu'il nomme fonction de signification et fonction de manifestation. Toutes deux se définissent au sein de la relation d'interlocution ou de communication. La première, celle de signification, vise à influencer le comportement de l'auditeur ou à induire en lui un état particulier. Elle a donc une efficace directe. La seconde, la manifestation, émet un indice sur l'état intérieur du locuteur et donne accès au vécu subjectif, comme la douleur ou la peur. Ces deux fonctions supposent donc de considérer le comportement ou l'état intérieur d'un sujet engagé dans une relation de communication. Le langage a ainsi une efficace directe et la signification globale, c'est-à-dire le résultat de ces deux fonctions, dépend non seulement de l'environnement perceptif de l'énoncé émis, mais elle suppose aussi de considérer le comportement et les subjectivités des deux parties engagées dans l'échange verbal. Or, Buller note l'insuffisance de ce modèle qui ne permet pas de rendre compte de la totalité du phénomène langagier. Le défaut de ce modèle est qu'il n'envisage que l'un des aspects de la relation du langage au monde. En effet, pour que la signification soit possible dans ce cas, il est nécessaire qu'il y ait un interlocuteur, que celui-ci me perçoive comme sujet parlant, que les conditions extérieures soient réunies pour qu'un échange ait lieu. La signification est donc ponctuelle. Le langage réalise un effet dans une certaine relation d'interlocution. Qu'en est-il des cas où je souhaite, par exemple, rapporter ou décrire quelque chose du monde afin de le fixer dans ma mémoire? Qu'en est-il des cas, demande Buller, où je parle du monde en son absence? Comment alors la signification peut-elle avoir lieu, puisqu'elle n'est ni nécessairement subjective, ni dépendante d'une inscription première dans la situation de communication? Qu'en est-il des cas où je souhaite représenter, Darstellen, quelque chose du monde? La représentation, dont c'est la première occurrence dans l'œuvre de Buller, suppose de se, dans cet article, suppose de se détacher de l'influence des circonstances de l'énonciation, elle n'a rien à faire avec le comportement, mais ceci afin de mieux rendre compte d'un état du monde, d'un objet observé, qu'il s'agirait de décrire sans perdre en compte la dimension subjective des états intérieurs. La relation au monde est donc médiatisée, elle dépend d'une convention. En effet, Buller dit qu'il faut penser cette représentation sur le mode du tracé de crayon, de l'image photographique, et qu'il faut comprendre Darstellen au sens de Darstellende géométrie, de la géométrie descriptive. Le tracé de crayon reporte un objet du monde dans une autre dimension, le plan, tout en observant une fidélité plus ou moins grande, contrairement à l'image photographique qui suppose un maximum de fidélité de la représentation. Et dans ce cas, la représentation est alors reproduction. La référence à la géométrie descriptive, utilisée par exemple par les tailleurs de pierre afin de représenter un bloc à tailler sur un plan à deux dimensions en un nombre minimum de projections orthogonales, suggère l'introduction de conventions. C'est en fonction d'un code précis d'élaboration et de lecture que le tailleur retranscrit sur la pierre la forme représentée sur le papier. La troisième fonction du langage suppose donc une relation codifiée selon une convention, une relation codifiée selon des conventions à un objet du monde qu'il s'agit de fixer de manière objective dans la représentation. Peu importe ensuite que cet objet soit absent ou que les circonstances aient changé, sa signification reste inchangée en fonction de la convention initiale. Ainsi, dans le langage, la signification dans la fonction représentationnelle n'est plus dépendante d'aucun rapport immédiat d'inscription dans la situation perceptive d'énonciation. Buller précise la nature de cette convention et ses conséquences pour la fonction de la représentationnelle dans un article de 1918 consacré à un examen des nouvelles théories de la phrase. Le langage a une efficace. Il réalise un effet dans les trois dimensions déterminées par les trois fonctions complémentaires et inéliminables du langage, qui sont posées vraiment dans cet article, qui sont l'expression des états intérieurs, le déclenchement d'un comportement dans l'auditeur et la représentation d'éléments du monde sous forme d'objets dans les noms ou d'états de choses dans les propositions. Les deux premières fonctions apparaissent progressivement dans le langage de l'enfant. Donc là, je suis l'évolution de l'article. Le cri du nourrisson exprime sa faim ou sa peur, puis il est modulé pour appeler à l'aide et influencer donc le comportement de l'auditeur. Le langage, considéré dans ses deux premières fonctions, suppose donc toujours une dépendance au réel perçu et implique un lien de causalité entre deux événements de la situation présente. Par contraste, la fonction représentationnelle échappe à cette dépendance en vertu de la relation de coordination, de Zuordnung, par laquelle un mot est associé à un objet, une proposition à un état de choses du monde. Cette relation de coordination est la convention introduite au préalable qui permet au mot du lexique de s'extraire de l'immédiateté de la référence sensible et qui permet à un nom de renvoyer à un objet du monde, y compris en son absence. C'est cette convention idéale qui assure la stabilité du lexique et la concordance lointaine des énoncés avec les états de choses du monde. C'est donc en vertu de cette coordination que la signification linguistique entre dans un nouveau rapport au monde médié. En effet, les exemples de représentation auxquels Buller compare la nouvelle fonction ne sont plus l'image photographique ou le trait de crayon, lesquelles supposaient une reproduction plus ou moins fidèle, mais la carte de géographie ou le tracé d'une courbe qui ne donne à voir ce qu'il représente qu'au spécialiste qui est muni des clés de lecture et capable, par l'application du code, d'accéder à la signification. La représentation ne donne accès à la signification qu'à celui qui connaît la convention de transcription. Il y a donc bien une médiation, ainsi qu'un savoir à détenir afin de pouvoir comprendre la signification de ce que le langage représente et de parvenir ainsi de manière indirecte et en son absence à la parcelle de monde coordonnée au signe utilisée dans la proposition ou dans la carte de géographie. Ainsi, la fonction représentationnelle introduit par la convention à un autre rapport du langage au monde dans lequel la signification peut s'effectuer en l'absence de tout ancrage perceptif des énoncés, à condition de connaître le code de transcription employé. La différence entre les fonctions dépendantes de l'inscription dans la situation de communication et la fonction représentationnelle est encore accrue par l'introduction de la valeur de vérité rattachée à la proposition. Buhler donne l'exemple dans la crise de la psychologie d'un témoin qui, croyant faire un faux témoignage, dit la vérité malgré lui. Il faut alors distinguer l'expression de la conviction, la fonction de manifestation, et la représentation dans la proposition d'un état de choses. La manifestation peut être authentique ou inauthentique. Cela signifie que, exprimant un sentiment, je peux feindre la surprise ou pousser une exclamation de véritable surprise. On ne peut pas alors dire que le cri de surprise ou l'expression de la conviction ou le cri de douleur soit faux. Ils peuvent être feints, peut-être, mais pas faux. On ne peut pas dire « il est faux que vous soyez surpris », mais il est possible d'inférer à tort de la surprise là où le cri était inauthentique. Dans sa fonction de manifestation et d'appel, le langage ne peut être qualifié de vrai ou faux. Une interjection n'est pas fausse en ce qu'elle ne comporte justement aucune représentation associée. Immédiatement compréhensible dans la situation perceptive, elle peut tout au plus établir un lien causal erroné. Le langage ne peut pas être qualifié de vrai ou de faux, ni même compris exclusivement en se référant à l'état intérieur de celui qui s'exprime. L'expression n'est pas authentique en soi, mais il lui faut être insérée dans les... Et d'autre part, l'expression n'est pas authentique en soi, mais il lui faut être insérée dans les circonstances de son élocution afin d'acquérir une signification. Si je dis « hélas » ou « éo » hors contexte, on peut difficilement en inférer une signification possible. Au contraire, la représentation dans la proposition d'un état de choses du monde correspond ou non à quelque chose qui s'est passé dans le monde, tel que cela s'est passé ou non. Par le biais de la connaissance et de l'analyse de la valeur de vérité de la proposition, la fonction représentationnelle s'extrait donc d'une évaluation qui devrait ne tenir compte que de l'état présent des circonstances de l'énonciation. L'évaluation de la valeur de vérité d'une proposition suppose d'apporter une connaissance et d'analyser la cohérence de la proposition par rapport à un système de convention et par rapport à un certain état du monde représenté. La fonction représentationnelle caractérise ainsi l'introduction des propositions de connaissance et des concepts dans le langage. Elle introduit l'accès à la valeur de vérité. Est-ce à dire que les énoncés authentiques soient exclus de la signification ? Au contraire, ce que Buhler remet en cause, c'est la division aristotélicienne en énoncés apophantiques et non apophantiques, selon lesquels les énoncés n'ayant pas de valeur de vérité seraient exclus du domaine de validité de la signification. Le but est de rétablir dans le langage, comme énoncé à part entière, accédant à une signification à part entière, les interjections, l'impératif et la prière, par exemple. Les interjections ou les insultes constituent bien, donc accèdent bien à une signification, mais dans des conditions différentes. Il leur faut s'appuyer sur le monde, sur la situation, sur les éléments sensibles. Par exemple, dans le cas des insultes, il faut entendre l'ironie dans la voix ou le mépris. Dans le cas des interjections, elles n'ont pas de sens si les interlocuteurs ne partagent pas un champ de perception commun. La dualité entre un ancrage nécessairement perceptif pour accéder à un remplissement de signification et l'indépendance de la signification par rapport à cet ancrage perceptif, la dualité donc est constitutive du langage et il faut parvenir à penser le double accès à la signification par la voie de l'intuition et par celle du concept ainsi que leur intrication nécessaire. En fait, ce que je pense, c'est qu'en posant le modèle des trois fonctions, Buhler pose que dans l'usage du langage, on peut dissocier deux façons de remplir la signification, une qui dépend de la perception, l'autre qui s'en distingue. Et le problème, c'est d'arriver à penser l'unité de cette signification et l'interaction possible de ces deux dimensions. Donc, dans un deuxième moment, ce que je pense, c'est que le concept de sens tel qu'il est introduit dans la crise de la psychologie, qui est un concept englobant, est une tentative qu'apporte Bullard pour résoudre la tension, et qu'en fait, c'est une tentative qui a échoué. Ce qu'il faudrait donc parvenir à penser, c'est un concept qui puisse englober les trois fonctions dans une unité globale, tout en conservant leurs particularités propres et leur multiplicité. Or, c'est l'objet du concept de sens tel qu'il est introduit et développé dans la crise de la psychologie. Dans cet ouvrage, Bullard développe un concept à la fois unitaire, c'est le sens, et multiple. Il y a trois fonctions, le sens est compris selon trois fonctions du signe, qui sont le signal, l'indice et le symbole. Ce concept n'est pas exclusivement linguistique, mais Bullard articule grâce à lui la perception et le point d'origine de la sémantique, à partir d'une analyse du guidage mutuel au sein du comportement et des différentes formes de la compréhension d'un signe. Cependant, une distinction fondamentale demeure au sein du concept de sens entre ce qui va émerger comme les Anzeichen, qui sont associés à la fonction de manifestation, et les Ordnungszeichen, qui caractérisent la représentation. Et en fait, je pense que cette distinction-là, ensuite, va être extraite de ce contexte-là et va permettre d'articuler la problématique des champs dans la théorie du langage. Mais si le concept de signe échoue à constituer l'intrication nécessaire entre les dimensions de l'intuition et du concept, Bullard pose néanmoins les éléments fondamentaux qui seront ensuite intégrés dans la réflexion sur les champs de la langue. Ce détour par la perception est renforcé par le parallélisme que Bullard instaure entre les trois fonctions majeures qui constituent l'objet de la psychologie. Donc quand il analyse l'état des lieux de la crise de la psychologie, Bullard distingue trois éléments majeurs qui font partie de l'objet de la psychologie, qui sont les vécus intérieurs, le comportement et les œuvres de l'esprit. Et donc Bullard établit un parallélisme entre ces trois objets de la psychologie et les trois fonctions du langage. La réflexion sur l'unité de la psychologie doit passer par la considération des trois fonctions inéliminables et interdépendantes de son objet. Et si le langage est le modèle sur lequel penser cette unité, il faut également constituer un concept unitaire qui soit capable d'englober les trois fonctions du langage, tout en conservant leur spécificité. Donc Bullard échappe à la confrontation directe de la psychologie en passant par un développement de la théorie du langage. Ainsi, les analyses de la crise de la psychologie Bullard développe une thèse selon laquelle les trois fonctions du sens, que sont le signal, l'indice ou le symptôme et le symbole, permettent de maîtriser le domaine complet de la perception. Ainsi, les analyses de la crise de la psychologie conduisent en fait au développement d'une première théorie du langage et à l'ébauche d'un système d'axiomes associant les fonctions du langage et de la psychologie. Il est alors particulièrement intéressant de considérer le seuil d'introduction à l'usage des signes et les analyses que Bullard consacre à la compréhension des comportements au sein des circonstances. L'élément premier qui caractérise la sémantique est la vie en communauté. Le langage n'est pas une affaire privée, mais avant tout un appareil d'orientation, un moyen de guidage mutuel des membres d'une même communauté. Or, l'analyse de ce guidage mutuel et des conditions de possibilité de compréhension des membres de la communauté inscrits dans une même situation permet d'articuler la situation perceptive à l'émergence de la sémantique et d'introduire une notion de comportement doué de sens. Le guidage mutuel des comportements suppose en effet de partager une situation de perception commune. Dans la rue, les passants règlent leurs pas les uns sur les autres, ajustent leur comportement en fonction des éléments de la situation. Le contact se passe de mots et suppose une adaptation mutuelle des comportements sans recours à aucun signe. Si je croise quelqu'un sur un trottoir étroit, chacun se serre sur un côté sans qu'il soit besoin de rien dire ni d'émettre aucun signe. C'est un ajustement mutuel du comportement, qui dépend totalement de la prise en compte de l'environnement perceptif. Il y a bien une forme de compréhension et d'ajustage parce que le guidage est mutuel et que l'action est dirigée par un but, même très primaire, comme continuer sa route en se croisant sur un lieu déterminé. Le point de départ du guidage est compris dans la situation de perception et ceci suffit pleinement à la réalisation du geste, à la concordance du comportement des deux acteurs de la situation. C'est donc dans une considération commune des buts visibles du comportement de l'autre et de la situation de son corps en mouvement dans l'espace qui donne naissance à une première forme de compréhension et à un guidage muet. C'est par complexification de la situation, introduction d'une ambiguïté dans l'environnement perceptif et d'un but qui excède cet environnement, que la sémantique succède à la simple prise perceptive avec l'introduction du signal. Bullard a recours à l'exemple d'une situation quotidienne de déplacement en milieu urbain, Deux personnes sont concernées, un piéton et un automobiliste, chacun se déplaçant selon un axe distinct, adapté à leurs moyens de locomotion respectifs, ces deux axes étant amenés à se croiser. Plusieurs cas de figure sont alors possibles. Soit ni le piéton ni l'automobiliste ne prêtent attention à la présence de l'autre, auquel cas il risque fort de se produire une collision, dommageable au piéton. Dans ce cas, chacun se sera contenté d'évoluer selon une trajectoire individuelle, sans se préoccuper du monde environnement ni d'aucune relation possible. Cependant, un tel cas est accidentel en ce qu'il concerne l'exception et non la généralité du comportement. Le premier véritable cas est donc celui dans lequel le piéton ne prête pas attention à l'automobiliste, qui, lui, le remarque, et sait d'après la direction de sa marche où ses pas vont le mener. L'automobiliste peut ainsi anticiper la trajectoire du piéton et prévoir qu'il va constituer un obstacle à son déplacement, ceci parce que le piéton poursuit un but explicitement perceptible. C'est d'après la situation perceptible, d'après une considération des éléments de son environnement sensible, que le chauffeur peut anticiper l'action finalisée du piéton qui est traversé et adapter son comportement en conséquence. S'il freine, il n'engage aucune communication, mais une adaptation unilatérale de son comportement sur celui du piéton. Donc l'automobiliste agit ainsi parce qu'il a compris quelque chose de la situation. À quelles conditions le guidage peut-il être mutuel, adapté, coordonné et entrer dans une relation de réciprocité ? Deux cas sont encore possibles. Soit le piéton remarque l'automobiliste et s'immobilise, le laissant passer. Dans ce cas-là, le guidage est réciproque. Et donc, il y a une relation de communication sans signe qui a lieu. Soit il ne le voit pas, mais l'automobiliste klaxonne, produisant un son qui a une efficace immédiate sur le comportement du piéton. Il s'immobilise. Dans ce cas, le guidage est induit par un signal qui, s'il s'inscrit dans la situation perceptive, faut l'entendre et le comprendre comme avertissement selon les circonstances, n'en est pas moins produit dans un but explicite d'avertissement. Le signal vient suppléer le regard et il agit comme une extension de la perception directe sur le comportement de l'auditeur qui réagit en conséquence. Buller analyse alors le passage des conditions de réalisation du guidage dans le champ de perception commun au glissement à l'ordre de la sémantique lorsque la perception immédiate fait défaut et qu'un signal vient élargir l'horizon de perception. Donc le signal peut être la couleur rouge sur le sémaphore qui contraint le conducteur de locomotive à se comporter comme s'il avait perçu un véritable obstacle. Le signal n'est pas une barrière posée sur les rails, dans ce cas qui empêche physiquement le train de passer, mais il met en jeu un comme si, un substitut de perception. Il est donc nécessaire de connaître le code et de le percevoir, et de le comprendre, donc de posséder la clé d'usage de cette lumière qui signifie « agis comme s'il y avait un obstacle sur ta route ». La perception du signal engendre une action coordonnée. Comprendre le signal consiste à s'arrêter. Mais le signal n'a de valeur que dans certaines circonstances. Un poteau avec une lumière rouge au milieu d'un champ ne signifie pas la même chose que sur une route. Il n'est pas placé dans les bonnes circonstances. Aucun comportement adéquat ou doué de sens ne peut lui correspondre, sauf si un code en décide autrement. Donc ça, c'est pour l'introduction du signal avec les notions de guidage, d'orientation et d'inscription dans des circonstances. Le signe peut également fonctionner comme indice. Dans ce cas-là, le monde environnant fournit des données de perception, des propriétés des choses, et ces données d'essence fonctionnent comme indice de ce qu'on va ensuite faire ou dire des choses. Avant la dimension du symbolique, la perception est donc déjà traversée par le sens. Celui-ci ne se limite pas au symbole. C'est là que Buller polémique contre Sprenger. Mais le sens n'est pas surajouté de l'extérieur par un processus de réflexion et d'abstraction. Il s'inscrit au contraire dans l'usage, au corps de l'environnement de perception. Buller reprend la définition de l'indice qu'en donne Husserl dans la première des recherches logiques. L'indice est un signe d'association qui renvoie à l'existence d'un élément du monde de manière causale. Buller donne l'exemple de l'aiguille du baromètre qui plonge, indiquant l'imminence d'une tempête. Ce signe indique une connexion entre les choses existantes, l'aiguille qui plonge et la venue de la tempête. Donc l'indice est signe d'une connexion entre les choses, d'un ordre causal des existants dans le monde, et s'oppose en cela au signe d'ordre, l'ordre rerum, qui caractérise la fonction représentationnelle, la coordination et l'usage du signe comme symbole. Mais là où Buller critique Husserl, c'est que Husserl éliminait l'indice de le champ de validité de la signification, alors que Buller essaye de l'y inclure. Ce qui se passe, c'est que Buller établit un lien fort entre signe d'ordre et la coordination. Ça lui permet de retravailler le concept de coordination qui caractérise la représentation. Dans son article sur la représentation qui date de 1923, Buller caractérise l'ordre à partir d'un exemple spatial. Il prend l'exemple d'un antiquaire qui connaîtrait si bien la place de chaque objet de sa boutique qu'il n'aurait pas besoin de signes d'ordre, car elle pourrait édifier un système de place à partir d'un système de choses, en déterminant que l'horloge est entre une cafetière et une table. Et donc on est capable de s'y référer à partir du système du monde même, des choses. En l'absence de relation entre les choses, comment construire un système d'ordre ? C'est à ce moment que les signes de place interviennent et constituent un ordre par la relation de coordination du nom à la chose et de la proposition à l'état de chose. La représentation n'est pas directe, elle ne donne pas accès au monde dans son immédiateté, mais indirecte et médiée par des facteurs organisateurs. C'est ça qui va être développé ensuite comme signe d'ordre, ce à quoi vous faisiez référence hier, aux éléments qui dans la langue sont des classeurs ou des organisateurs. Le concept de sens tel qu'il est développé dans la crise de la psychologie juxtapose les différents usages du signe qui correspondent chacun à une fonction particulière du langage, sans parvenir à agencer de manière cohérente et complémentaire les relations des indices et des signes d'ordre, les fonctions dépendantes pour leur compréhension d'un ancrage sensible dans les circonstances et la fonction représentationnelle. Cette tentative pour constituer une unité des trois signes dans le concept de sens est un double échec en ce qu'elle ne résout pas la discontinuité du signal du symbole et en ce qu'elle n'est qu'une illusion d'unité. Elle ne fournit qu'une illusion d'unité. Buller abandonne par la suite ce concept donc, de sens pour développer une hypothèse qu'il avait avancée dans sa réflexion sur la fonction représentationnelle dans la crise de la psychologie, celle de la nécessité de considérer plusieurs champs de représentation pour comprendre réellement la signification de la représentation. Il est donc nécessaire de passer du modèle instrumental fonctionnel à une réflexion sur ce que Buller nomme la structure de la langue, hors de la relation, non nécessairement comprise dans la relation de communication. Donc de quitter la recherche sur le terrain des fonctions pour analyser les relations de l'indice et du symbole au niveau des termes, du lexique et de la syntaxe. Comment dans cette nouvelle approche retrouve-t-on un élément fondamental de rapport au monde ainsi qu'une ébauche d'interaction profonde entre les dimensions de l'intuition et du concept ? Dans la théorie des deux champs telle qu'elle est exposée dans la théorie du langage, Buller se place donc sur un autre terrain, qui est plus celui du modèle instrumental. Il considère la nature des termes de la langue et interroge les conditions de leur remplissement de signification. Or, c'est en observant les particularités des deux champs et en analysant plus précisément celui du symbole que la théorie des deux champs présente l'intrication recherchée auparavant de l'intuition et du concept et qu'une forme inéliminable de rapport au monde surgit au cœur du champ symbolique même. Buller expose le concept de champ dans un article de Kernstudien paru en 1928 intitulé « Die Symbolik der Sprache » dans lequel il pose que les signes ne deviennent symboles et la fonction représentationnelle ne s'accomplit qu'au sein d'un champ de représentation, pensé sur le modèle pictural de l'insertion des taches de peinture dans une valeur d'image, dans lequel les signes prennent place. C'est justement dans l'ordre de ces places les unes par rapport aux autres que les symboles accèdent à la signification et que la représentation s'effectue. Il faut que le symbole soit étranger au champ et que pourtant il ait une certaine disposition à ce champ. Ça, c'est l'exemple des notes de musique dans la partition. Donc, vous avez les cinq lignes de la portée qui constituent le champ dans lesquelles vont s'introduire les éléments de lexique qui sont les notes noires et croches que vous allez introduire à certaines places et la signification de ces notes va provenir de leur place et de leur emplacement mutuel dans le champ. Et ce n'est qu'à cette condition que le symbole peut acquérir une signification à l'intérieur du champ. C'est pour caractériser la spécificité de la fonction de la représentation. Mais ce n'est pas nécessairement juste de la fonction représentationnelle, parce que Buller dit qu'il y a plusieurs champs de représentation de la langue. Buller introduit d'ailleurs d'abord trois champs, dont un champ pictural ou iconique, avant de se reprendre en disant que la langue ne peint pas et qu'elle symbolise, et que l'enjeu donc, de cette distinction est le statut de la représentation, qui n'est jamais une simple image ou une reproduction, mais qui suppose toujours le passage par la coordination. Donc Buller ne conserve que deux champs, qui sont le champ dialectique et le champ symbolique. Cela signifie que la représentation n'est plus cantonnée au seul symbolique, puisqu'il y a plusieurs champs de la représentation, mais qu'elle se déploie dans le langage selon plusieurs modes d'inscription du signe dans le champ. Donc ça veut dire qu'il faut penser différemment, il ne faut plus seulement penser la fonction représentationnelle, il faut penser la représentation comme autre chose. Donc il faut analysons les particularités de ces champs. Ils correspondent à des signes particuliers, mais aussi à des termes précis et à des usages différents des termes dans le champ, d'où découle une différence d'accès à la signification. Donc le signe déictique s'insère dans la situation et dans un système de coordonnées afin de permettre une orientation dans un champ environnant. Il n'est pas totalement distinct de sa matérialité sensible, puisque comme le doigt tendu qui guide le signal, certains auxiliaires déictiques viennent conduire et guider la compréhension et le comportement de l'auditeur. Le langage peut alors être pensé comme un appareil d'orientation qui guide les gestes et le comportement de l'auditeur sur fond d'un espace perceptif et englobant une dimension d'interaction comportementale. Enfin, le principal trait du signe déictique est que sa signification n'est pas stable, mais qu'elle change selon les cas en fonction de la situation. Au contraire, le symbole n'a de signification qu'en vertu d'une coordination idéale, à l'arbitraire limité, conventionnelle et stable, entre le dénominatif et l'objet ou l'état de choses qu'il nomme. Le monde perçu peut ensuite faire défaut, le mot peut être disjoint de son écorce sensible ou de sa profération, il n'en continue pas moins de référer à un objet possible du monde qui lui est coordonné. Les deux signes supposent donc deux rapports au monde et deux formes de remplissement de leur signification disjoint. Dans le langage, les signes déictiques sont complétés par des mots déictiques, dont la fonction est de montrer, d'indiquer, de guider le locuteur en direction de la compréhension. Ces mots sont par exemple « ici »,« maintenant » ou « je ». Ils se distinguent des autres mots du vocabulaire par le fait qu'ils ont besoin d'être inscrits dans une situation précise pour trouver leur sens. Les mots déictiques, signes du langage fonctionnant comme signaux, guident les gestes ou le comportement de l'auditeur engagé dans un rôle au sein de l'événement de communication. Ces déictiques distinguent certaines places du monde perceptif comme pertinentes. Ils renvoient directement à la situation perceptive dont leur sens dépend. Et il est ainsi possible de constater des échecs de la signification lorsque le signal est incohérent et ne peut ouvrir d'espace signifiant dans le monde perçu. Le mot déictique, en tant qu'il est proféré, est ancré donc dans un champ déictique qui est la situation orientée selon un système de coordonnées centré autour d'une origine. Ce champ est la condition de possibilité même du remplissement de signification pour le déictique. Cela ne signifie pas qu'il expose l'objet auquel le déictique réfère immédiatement dans le monde, mais qu'il instaure les conditions pour que le signe ou le mot guide le regard dans une situation orientée en direction du sens. Les déictiques sont également dépendants de la perception de la matérialité du son, comme je l'ai dit auparavant, contrairement au dénominatif qui renvoie au contenu de l'objet sans considérer de caractéristiques sensibles. Les auxiliaires sensibles de la déixis conduisent donc, comme le geste du doigt, le regard ou le comportement de l'interlocuteur à travers la situation orientée. Ce n'est donc pas seulement que les déictiques se greffent sur une situation prédonnée, ni que le monde ait un sens en dehors de leur usage, mais bien qu'il faut qu'un monde soit perçu, sur fond duquel le déictique instaure les conditions de possibilité d'une orientation et d'un ancrage dans la situation. La notion d'ancrage est alors fondamentale, car c'est elle qui permet de mettre à jour la particularité notable des déictiques. Plus que la perception, qui peut être directe ou indirecte, réelle ou fantasmée selon les différents modes de la déixis, c'est bien le fait que l'usage s'ancre, c'est-à-dire trouve un point de focalisation et tout à la fois une inscription déterminante dans un monde, dans un environnement centré, qui confère au déictique la possibilité d'avoir une signification. Ebuller écrit dans le modèle structural du langage, c'est un article paru dans les travaux du Cercle linguistique de Prague en 1936, le champ du déictique est constitutif de la langue, tout autant que le champ symbolique. La langue est appareil d'orientation dans la vie communautaire, la même où un sujet guide l'autre jusqu'à l'objet à percevoir, et elle pilote les sens en éveil, ses sens au moyen desquels il entend et voit la situation présente et en cours d'effectuation. La langue savait avant Kant que des concepts sans intuition sont vides et qu'elle nous maintient en contact avec le monde sensible dans sa bigarrure, et elle nous maintient en contact avec le monde sensible dans sa bigarrure. Le moyen le plus simple et le plus efficace à cette fin est la déixis de la langue. La réflexion sur le champ déictique permet donc de réintroduire dans le modèle structural de la langue les concepts de guidage, d'indice et d'orientation introduits précédemment dans la réflexion sur le mode d'action des fonctions, qui conditionne cette fois l'acquisition de la signification par le terme déictique dans la situation. Donc, si on considère maintenant le champ symbolique et les dénominatifs, les dénominatifs sont déliés de toute attache sensible à un environnement perçu et prennent leur sens dans le champ symbolique, ou le contexte au sens de cotexte. Ils constituent la dimension conceptuelle pure du langage et subsistent hors de la parole dans le langage écrit, par exemple. Ils sont disjoints de la profération et de la matérialité de l'énonciation et ne dépendent plus de la perception singulière qui viendrait remplir la signification du mot. Le langage, dans sa dimension conceptuelle, s'abstrait de la dépendance à la situation de perception et constitue la signification dans un ordre de signes propre, indépendamment du monde environnant. Et pourtant, si le nom a la plupart du temps besoin d'un contexte pour faire sens, il se peut que celui-ci manque et que le dénominatif trouve tout de même la possibilité d'un remplissement de signification, non pas seulement en vertu de sa coordination à un objet, mais en vertu de sa position dans la situation d'énonciation, de son usage dans la parole. Il semble alors que l'ordre de l'intuition vienne compléter de manière convaincante celui du concept. Je reprends un exemple que j'ai déjà utilisé ailleurs. Si dans une salle d'opération, le chirurgien dit « scalpel », l'assistant lui tend l'objet parce qu'il a compris la signification de ce mot et l'usage qu'il devait en faire, car cet usage s'inscrit dans une situation orientée. Cela veut dire que « scalpel » n'est pas un nom rescapé d'une proposition dans laquelle seulement il pourrait prendre sens, mais bien que dans cette situation particulière, dans un usage singulier, il n'y a pas besoin de contexte linguistique pour que le mot trouve son remplissement de signification. L'ancrage dans la situation s'y substitue. Un nom prend son sens dans la situation perceptive environnante sur le modèle du déictique. C'est l'hypothèse de l'introduction du champ environnant qui permet alors de comprendre ce nouveau rapport du nom à la signification. Et ce nouveau rapport au monde. Si pour faire sens, un dénominatif peut se passer du contexte linguistique, donc du champ symbolique, qui le caractérise dans les usages ordinaires, il ne peut pas se passer d'un champ environnant, d'un Umfeld. Müller introduit ce concept général de champ environnant afin de souligner que la signification d'un dénominatif, même coupée de tout contexte linguistique, se fait nécessairement sur fond d'un champ, c'est-à-dire qu'elle suppose que le mot se trouve à une place dans une structure générale variable. Que cette structure soit intuitive ou conventionnelle, perceptive ou symbolique, il faut bien que plusieurs éléments soient donnés pour constituer la trame dans laquelle s'insère l'élément signifiant. Or, le concept de champ environnant apparaît comme une structure de champ plus générale que le champ symbolique, dans laquelle Müller cherche à comprendre comment un nom, pour faire sens, y compris dans l'usage du langage, dans la situation de communication, lorsque manque le contexte. Le champ environnant se subdivise en trois éléments. Il est en pratique, dans le cas où un dénominatif est associé à une praxis. Le remplissement de signification du dénominatif ne dépend pas de la seule convention de coordination valide dans le champ symbolique, mais également de l'inscription dans une certaine situation et même d'une forme d'orientation dans la situation. Les deux autres champs environnants sont dits saint sémantique, qui correspond au contexte, et saint physique. Si vous dites un noir en entrant dans un café, l'usage de votre mot dénominatif a un sens parce qu'il s'inscrit dans une certaine situation qui lui confère la possibilité de trouver un sens hors de toute supposée reconstitution contextuelle. Le dénominatif s'insère dans une situation, il trouve un ancrage dans le champ, il est émis par le client en direction du serveur dans un endroit spécifique et correspond à une attente particulière. Le mot un noir ne renvoie à rien de précis dans le sens où il ne s'agit pas de ce café-ci, mais de tout café noir sans crème qui pourrait être apporté dans ces circonstances. Mais il trouve son sens depuis la situation perceptive même dans laquelle on en use. Et ce sens provient d'une forme de cohérence de la situation elle-même et d'un réseau de conventions et d'usages. Car si par exemple vous entriez dans un café et que vous disiez « violon », la situation ne pourrait fournir à ce nom aucun sens, car il ne correspondrait ni à un usage, ni aux paramètres de la situation. Le dénominatif est alors inscrit dans un usage, et dans cet usage, il tire son sens en partie de son orientation au sein d'une situation perceptive. Il est ainsi possible d'analyser cette inscription du dénominatif dans la situation d'usage du langage comme une extension du modèle de remplissement de signification du déictique. Le dénominatif s'inscrit dans une praxis, il intervient comme un geste de désignation. Certes, il continue à exprimer le contenu de la chose sur le mode du nom, mais il fait plus, et on use alors d'un dénominatif comme d'un geste dans une situation et d'un geste qui désigne depuis un ancrage perceptif et situationnel. Donc c'est le modèle de l'ancrage primordial pour la signification du déictique qui est transposé ici à la signification du dénominatif. De ceci, on peut conclure que le rapport au monde impliqué dans le remplissement de signification du dénominatif est contaminé par le modèle du langage de l'intuition. Ou plutôt, le modèle de l'intuition permet de remplir un usage du concept, d'élaborer un rapport à la signification sur un modèle mixte. C'est en ceci que le champ symbolique contient en lui les éléments issus du champ déictique, sans qu'on écrase l'un sur l'autre, qui rendent possible un autre accès à la signification pour le nom. Le second modèle du champ environnant offre un exemple plus problématique qui est celui de la coordination déictique, qui est quand vous voyez un... Bon, je le développerai plus tard s'il faut. Ouais. Donc, ces exemples nous mettent sur la voie d'une véritable interaction de l'intuition, de la DX6, du champ du domaine de l'induction, donc, qui est caractérisé ici comme champ de la DX6, et du concept, du champ symbolique. Car il semble bien qu'en définitive, la signification dans le champ symbolique ne puisse jamais s'affranchir complètement d'une certaine forme d'ancrage inéliminable dans le monde. Et c'est comme cela qu'il serait alors peut-être possible d'interpréter ce passage crucial de la théorie du langage, que vous avez cité hier. Tel que nous le connaissons aujourd'hui, le langage humain en tant qu'instrument de représentation symbolique a un certain nombre d'étapes développementales derrière lui, qui toutes suggèrent que la langue s'est affranchie toujours plus de la monstration et s'est toujours davantage éloignée de l'iconicité. Je coupe. On comprend sans peine qu'un appareil symbolique, une fois aussi éloigné de la reproduction, donc je suis toujours en train de citer, et aussi éloigné de la reproduction iconique et indirecte que l'est devenue la langue, parvienne à atteindre un haut degré d'universalité dans ses performances. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne perd pas totalement par la même occasion la capacité à restituer fidèlement les relations. Peut-être surestimons-nous l'affranchissement à l'égard du champ idéictique, peut-être sous-estimons-nous le fait que chaque représentation linguistique d'un état de choses est fondamentalement ouverte et requiert d'être complétée en puisant dans un savoir à propos de cet état de choses. Ou, ce qui revient au même, tout savoir saisi linguistiquement reçoit peut-être un complément d'une source qui, pour ne pas se déverser dans les canaux du système des symboles linguistiques, n'en produit pas moins un savoir authentique. Mon hypothèse de lecture suppose d'insister sur cette dépendance plus fondamentale qu'il n'y paraît entre les deux champs de la langue, afin d'expliquer cette ouverture du symbolique sur une autre source qui le complète. La représentation est ouverte, elle ne réalise pas uniquement sa fonction dans le champ symbolique, ou plutôt, il faut considérer dans ce champ une ouverture à certaines données de la situation d'énonciation, à des conditions d'orientation et d'ancrage dans le monde environnant. Le doute sur la capacité à restituer la fidélité de la relation dans la coordination peut être également lu dans la volonté de réduire l'arbitraire dans la tsuordnung, comme vous en avez parlé hier. Et le deuxième argument, c'est l'impossibilité pour la proposition de rompre toute attache des liens intuitifs et perceptifs pour n'être qu'une pure production symbolique abstraite, ce qui est développé au paragraphe 25 avec l'introduction de la DX6 d'apprentissage et de la DX6 d'objet. Ce qu'introduit Buller par ces deux concepts, c'est une dimension plus fondamentale de la relation de la signification langagière au monde, dans laquelle même la proposition la plus pure de la logique contient des éléments intoxicaux en ce qu'ils ont été, ne serait-ce qu'appris sur ce mode, donc le mode de la DX6 d'apprentissage. Buller introduit alors une référence à l'apprentissage du langage qui se ferait sur le mode de la désignation, y compris pour les éléments de la proposition les plus abstraits, détachés de références directes au monde environnement. Il faut bien que les éléments de la proposition aient été introduits, c'est-à-dire qu'il faut les avoir situés dans un champ de compréhension possible et qu'il faut les avoir désignés en leur attribuant un sens sur le mode « Regarde, ce signe que tu vois sur le tableau, nous l'utiliserons comme symbole de ceci ou cela. » Donc le modèle d'apprentissage du contenu de signification est celui de la DX6, que la pratique vient ensuite constituer comme symbole détaché de la DX6 première. Donc il faut disjoindre les deux éléments, la DX6 comme attribution d'une place dans un ordre, de monstration, et la pratique du symbole qui est détachée ensuite de la DX6. Ainsi, l'usage du déictique participe à l'élaboration du symbole comme une désignation première qui montre la direction du sens mais ne le confère pas. Or, le développement de la proposition dans le champ symbolique est également marqué par une seconde forme de déixis inéliminable qui est la déixis d'objet, laquelle seule comporte la garantie de rattacher la proposition au réel, au sens de Wirklichkeit. La déixis d'objet réintroduit dans le champ symbolique, dans la proposition, une attache inéliminable à la réalité dans sa particularité. Il s'agit alors de penser une nouvelle forme de l'ancrage, non pas dans la situation, mais dans un fond d'environnement plus élémentaire, celui de la réalité. La DX6 d'objet est le garant de l'attache de la représentation dans le champ symbolique, non plus à un champ qui serait condition de la signification, mais à une situation constituée par le déictique, mais à un niveau très simple et intuitif de la réalité, celui qui vient remplir de son épaisseur le conceptuel. Ce qui le reste alors est la forme la plus atténuée, mais en même temps inéliminable, de la DX6, à savoir l'ancrage.